Annette et le criminel, tome 4e, chapitre 24. Monsieur de Rabon était le chef du jury, et à l'instant décrit dans le chapitre précédent, il se leva et interpella ainsi le président. « Monsieur le président, une personne que je ne pourrais désigner et qu'aucun de mes collègues n'a vue par suite de l'attention que nous prêtons à l'acte d'accusation qu'on lit en ce moment, vient de lancer sur notre table une note ainsi conçue. Si M. de Durantal est condamné et s'il est exécuté, le chef du jury et l'un des jurés dont la voix aura été contraire à l'acquittement périront, eux et leur famille. » M. de Rabon remit la note au président, et M. de Ruizan fit sur-le-champ un réquisitoire auquel la cour obtempéra. Et M. de Ruizan sortit pour faire commencer les poursuites sur cet attentat, l'un des plus graves que l'on puisse commettre contre les lois de son pays. L'audience fut troublée, et l'on chercha encore vainement une seule personne à accuser de cette singulière circonstance, car Jeanneton, mise avec la plus grande élégance et qui se trouvait auprès des jurés, ne fut reconnue par personne pour la Jeanneton qui gardait des chèvres à Durantal. Et c'était elle qui, par le conseil de Vernier, avait glissé ce papier sur le bureau des jurés. Elle avait soufflé sur ce papier plié en quatre, et sa douce haleine avait conduit le papier criminel jusqu'au doigt de M. de Rabon. Ce petit manège fut favorisé par l'attention générale et par le poli du bois dont était fait le bureau. Après cette longue interruption, l'on reprit l'acte d'accusation, dont la lecture remplit cette première séance. « Argot avait intérêt, reprit le greffier, à commettre ce crime, et les faits suivants établissent sa culpabilité. Monseigneur l'évêque d'A, soupçonnant l'affreux pirate de ce crime, en apercevant son frère mort, fit appeler la justice, et l'on examina avec soin le corps du contre-amiral. Premièrement, l'on découvrit que la mort lui avait été donnée violemment, mais sans lésion, car il était glacé par l'effet d'un poison subtil et d'un poison végétal qui ne laissait aucune trace. Cependant, on découvrit à l'artère du bras une piqûre, et les médecins n'hésitèrent pas à déclarer que cette piqûre légère était la cause de cette mort subite. Deuxièmement, en dépouillant les chairs avec précaution autour de cette piqûre, on aperçut un fragment de 2 lignes environ de hauteur et d'une finesse imperceptible qui se trouvait dans la plaie. Les médecins, munis de ce résidu d'une substance inconnue, l'ont enfoncé dans le corps d'un chien qui, à l'instant même où le fragment eut percé le tissu de sa veine, expira. Et les mêmes symptômes qui parurent sur le corps de M. de Saint-André parurent sur le sien. Alors les recherches les plus minutieuses eurent lieu, et l'on vit sur le parquet les traces des pas d'un homme qui serait sorti par la cheminée. On examina la cheminée avec soin, et l'on reconnut, aux traces laissées dans son passage, qu'un homme s'était introduit par le tuyau de cette cheminée. Le faîteau en avait été démoli, et les débris s'en trouvèrent dans la cour. Dans le jardin, on découvrit des pas d'homme imprimés sur le sable, qui, par l'effet du hasard, avaient été ratissés dans la journée. Et la mesure, la description minutieuse du pied, soit en allant, soit en revenant, a été prise. En examinant le haut de la cheminée, on découvrit un crampon de fer, il était neuf, et un marchand a déclaré en avoir fourni 7 dans la soirée pendant laquelle le crime a été commis à un homme d'une taille moyenne, et elle a désigné Argot. On a en effet retrouvé les 7 crampons sur la muraille de l'hôtel qui donne sur le jardin. La femme qui tient l'auberge où Argot était logé déclara que ce dernier avait été absent pendant le temps de la nuit et l'heure à laquelle le crime a été commis. D'après ces renseignements, on se mit à poursuivre Argot, qui se faisait appeler Maxandy, mais les recherches furent vaines, parce qu'il sut les éluder toutes. Monsieur de Durantal a, au moyen d'une épingle formée par une arête de poisson, tué un taureau furieux dans son parc, et le taureau mourut aussitôt que l'épingle entra dans le sang du taureau. La bague qui contient cette épingle a été saisie sur lui au moment de son arrestation. Et cette épingle venimeuse est cassée à sa partie inférieure, et le fragment trouvé sur le corps de Monsieur de Saint-André se rapporte parfaitement bien à cette épingle. La couleur du poison dans laquelle elle est trempée est uniforme dans le fragment et dans l'épingle, et une foule de témoins reconnaissait Monsieur de Durental pour l'homme qui vint à A. Les pas décrits et la trace du pied sont exactement les mêmes que ceux que produisent les pieds de Monsieur de Durental, etc., etc. À ses causes, etc. Cet acte d'accusation était dressé et signé par le procureur général de la Cour royale à G, sans nulle participation du parquet du tribunal de Valence. Le lendemain, la séance fut ouverte dès le matin. L'affluence était encore plus grande que la veille. L'on commença par l'appel des témoins. Sur la liste, Mademoiselle Sophie se trouva l'un des derniers, et elle était, au moment où l'interrogatoire commença, placée entre le bureau de Monsieur de Ruizan et le tribunal de la cour. « Comment vous nommez-vous ? » demanda le président à Jacques. Il se leva et répondit « Je ne m'appelle ni Argot ni Maxandy. J'ai pris le nom de Durandal parce que je possédais cette terre et qu'en effet je n'ai aucun nom propre. Je m'appelle Jacques. » À ces mots, Mademoiselle Sophie jeta un cri perçant. Elle regarda, avec la plus grande anxiété, le prévenu et tour à tour le président du tribunal. Puis elle parut en proie à l'horreur la plus profonde. Ici, Charles se leva et dit aux jurés « Messieurs, vous remarquerez que nous ne sommes point Argot ni Maxandy et que l'on n'a en aucune façon établi l'identité. »« Avocat, » dit le président, « vous ne devez pas faire encore cette observation. » Elle rentre dans l'ordre de votre plaidoyer, et vous avez tort de jeter d'avance. » Il s'arrêta, car son voisin, le président du tribunal, lui parlait à voix basse. « Où êtes-vous né ? » demanda le président à Argot. « À Durental, en 1786. Où est la preuve de cette assertion ? » Jacques fit parvenir au président un parchemin crasseux, et Mademoiselle Sophie, y ayant jeté les yeux, s'écria d'une voix altérée « Mon fils ! Oh ! Je l'ai livré !» Elle tomba comme une masse privée de vie, et en tombant, son crâne, portant sur le coin du bureau des juges, s'ouvrit, et le sang jaillit même sur le président. Elle était morte raide, autant par la violence du coup que par l'horrible révolution qui s'était faite en elle. Cet événement causa une sensation extraordinaire, et sur le champ, Charles s'élança vers Mademoiselle Sophie, et s'assurant qu'elle n'existait plus, s'écria « Cette mort subite, messieurs, nous prive d'une des plus fortes preuves en notre faveur, car vous ignorerez à toujours si cette demoiselle n'a pas eu deux enfants qui se ressemblassent tellement que les crimes de l'un puissent être attribués à l'autre. Je prends acte de ce moyen à l'instant même pour faire voir qu'il entrait dans notre défense, avant l'événement même, mais la cause présente des moyens de défense qui ne nous l'auraient fait employer que comme surcroît. » Cette observation de Charles produisit une grande impression. En ce moment, le président de Valence, devenu pâle et presque sans connaissance, déclara se récuser. Sur un mot qu'il dit au président de la cour, cette récusation fut admise, et ces événements, en plongeant l'assemblée dans une incertitude et un effroi cruel, aiguillonnèrent vivement la curiosité publique. La séance fut longtemps interrompue, car il fallut enlever Mademoiselle Sophie, et cette opération nécessita beaucoup de temps. Enfin, le président, que cet événement avait, comme tout le monde, visiblement ému, reprit l'interrogatoire de l'accusé. « Reconnaissez-vous cette bague pour vous avoir appartenu ?»« Je crois l'avoir portée, » répondit Jacques de Durental. « Avez-vous servi sous Monsieur de Saint-André ?»« Oui, monsieur. » »« Faisiez-vous partie de l'équipage de la frégate La Daphnie ?»« Oui, monsieur. » »« À quelle époque ? » En 1800. À quelle époque rentrâtes-vous en France? En 1800. Avez-vous connu Mademoiselle de Saint-André?
Oui, monsieur.
Est-ce vous qui avez été à A, chez Monseigneur l'évêque, dans l'intention de lui acheter sa terre?
Oui, monsieur le président.
En quel temps?
Je ne saurais en vérité préciser l'époque de mon voyage.
Cette réponse causa un visible plaisir à Charles Servigné. Avez-vous vu monsieur de Saint-André, le contre-amiral, à A?
Oui, monsieur le président.
Était-ce le soir ou le matin?
Ce fut le soir et ce fut le matin. Je le vis deux fois.
Messieurs les jurés, dit Charles, remarqueront que l'acte d'accusation ne mentionne qu'une visite.
Quand êtes-vous reparti d'A?
Quelque temps après avoir vu monsieur le contre-amiral.
Êtes-vous resté, tout le temps qui s'écoula entre votre visite et votre départ, à l'hôtel d'Espagne où vous logiez?
Non, monsieur.
Qu'avez-vous fait pendant ce temps?
Ici, Charles, se levant brusquement, dit au président « Monsieur, je m'oppose à ce que mon client réponde. Car ou il avouera que pendant ce temps il a tué monsieur de Saint-André, et son aveu ne peut servir en rien, les lois se refusant à ce qu'un prévenu s'accuse lui-même. Ou il gardera le silence et niera. Alors de toute manière la question est inutile. Il vaudrait mieux nous demander sur le champ « Êtes-vous coupable ?»
Le président se tut. Mais M. de Ruisan s'écria d'une voix sévère
« Hé ! Depuis quand s'élève-t-il du barreau une voix qui impose des lois au pouvoir qu'a le président de diriger les débats ?
On vous interroge. Gardez le silence si bon vous semble. Ne l'avez-vous pas gardé insolemment pendant toute l'instruction ?»«
Nous en avions le droit, »
répliqua Charles. « Eh bien, gardez-le donc encore en ce moment. Et n'oubliez pas que c'est par faveur que le ministère public et la cour ont permis qu'un avocat général plaidât comme un simple avocat.
« Je me soumets, dit Charles, à tout ce que cette réplique a de grave pour moi, puisque l'accusé garde le silence. Je n'ai ici d'autre vue que son salut. »
« Accusé Jacques, d'où teniez-vous cette épingle ou cette arête ? »
« D'un chef de sauvage de l'Amérique septentrionale. »
« Avez-vous été arrêté à Charlestown et condamné comme pirate ?»«
Oui. »«
Je ferai observer, dit Charles, que l'acte d'accusation n'a fondé en rien sa sévérité sur nos prétendues pirateries, et que la piraterie étant même reconnue, nous ne pourrions pas être condamnés pour ce crime. »«
Aussi, reprit le président, ne fais-je cette question que pour établir l'identité que vous annonciez vouloir détruire. »
« N'est-ce pas avec cette épingle que vous avez tué récemment un taureau dans le parc de Durantal ?»«
Oui, monsieur le président. » »«
Le chef de sauvage qui vous remit cette arête empoisonnée, en avait-il plusieurs ?»«
Je l'ignore. » »«
Des gens de votre équipage, êtes-vous le seul qui possédiez une arme semblable ?»«
Je l'ignore. » »«
Avez-vous communiqué seul avec ce chef ?»«
Non, monsieur. » »«
Étiez-vous plusieurs de votre équipage ?»
Oui.
En est-il revenu beaucoup en France avec vous?
Tous ceux qui échappèrent au combat livré devant Charlestown, pour en faire lever le siège, revinrent avec moi en France.
Pourquoi, après avoir fait un établissement aussi considérable que celui que vous fondâtes avant la pavée, n'y êtes-vous plus retourné depuis le meurtre de monsieur de Saint-André?
Les circonstances qui se sont succédées rapidement depuis 2 ans ne me l'ont pas permis, mais je n'aurais jamais craint d'y retourner. Au surplus, cette terre n'est pas ma propriété. Elle appartient à l'un de mes amis.
N'avez-vous pas été arrêté à Honnay-le-Vicomte ?
Oui, mais ce ne fut pas comme criminel. Je fus l'objet d'une erreur.
Alors, pourquoi offrites-vous 100 000 francs et les donnez-vous pour vous échapper ?
Parce que je voulais être rendu à Paris au plus tôt. Et le ciel m'est témoin que ce n'était pas pour échapper à des dangers, mais pour satisfaire une passion qui, à cette époque, m'agitait cruellement.
Ici, le président fit répandre du sable devant les jurés, ordonna à Jacques d'y marcher, et pria les jurés de voir la trace des pas
et la marque des pieds d'Argot. Le greffier mesura exactement les dimensions de ces vestiges et l'on passa à l'audition des témoins. Le premier fut la maîtresse de l'hôtel d'Espagne à A. Elle déclara qu'elle reconnaissait parfaitement bien Argot pour celui qui était venu loger chez elle il y a 2 ans. « Combien de temps a-t-il demeuré dans votre hôtel ?»«
1 jour et la moitié d'une nuit. »«
Vous devez avoir apporté vos livres et vous pouvez préciser le jour de son arrivée ?» demanda le procureur du roi.
« C'est, dit l'hôtesse, le 23 octobre 1820. »«
Messieurs les jurés remarqueront, reprit M. de Ruisan, que c'est le jour de la mort de M. le marquis de Saint-André, car on s'aperçut de cet assassinat le lendemain matin à 6 heures. »
Le témoin interpellé ne put pas affirmer à quelle heure et pendant combien de temps l'accusé fut absent. La servante de l'auberge, interrogée, affirma qu'on avait amené des chevaux de poste à 1h30 du matin et que l'accusé était dans sa chambre à 1 heure précise du matin. On lui demanda quand il était sorti. Elle répondit qu'il était sorti à 8 heures du soir pour aller à l'évêché et qu'il rentra 1 heure après, mais qu'à compter de 7 heures, elle ne pouvait pas affirmer l'avoir vu sortir. Cependant, une circonstance qu'elle se rappelait fort bien, c'est qu'il sortit 3 inconnus de l'appartement de l'accusé et qu'à 1 heure du matin, il s'était trouvé dans sa chambre sans qu'on l'ait vu rentrer.
La porte de l'hôtel était donc restée ouverte ?
Oui, parce que nous avions beaucoup de personnes qui devaient partir.
Avait-il l'air agité ? Demanda Charles.
Non, répondit la servante. Il riait souvent.
Une marchande de ferraille à A déposa que l'accusé, qu'elle reconnaissait parfaitement bien, en ce que, dit-elle, quand on avait une fois vu l'accusé, sa tournure et sa figure se gravaient aisément dans la mémoire, était venu dans la soirée du 23 octobre 1820 acheter 9 crampons de fer.
« Comment avez-vous pu le reconnaître ? » demanda Charles.
« Vous avez, selon l'avis de plusieurs personnes, l'habitude de vous tenir dans une arrière-boutique et vous n'éclairez jamais votre magasin. »
« Ce fut, dit-elle, à la lueur du réverbère.
« Messieurs les jurés, dit Charles, jugeront jusqu'à quel point on peut croire à cette déposition si importante pour nous, car le réverbère n'est pas en face de la boutique.
« Le réverbère est-il en face de votre boutique ? »
demanda brusquement M. de Ruisan.
« Pas tout à fait, répondit-elle.
Ici, le président déclara au juré que l'état de maladie dans lequel se trouvait M. l'évêque d'A, le caractère dont il était revêtu et ses fonctions n'avaient pas permis qu'il vînt faire une déposition orale, mais qu'on avait dressé à A un procès-verbal de son témoignage, et le président en donna lecture. Cette pièce était tout entière favorable au système de l'accusation, et Monseigneur rapportait un propos d'Argot annonçant évidemment l'intention qu'il avait de se défaire de son frère, le marquis. Une foule d'autres témoins, mais dont les dépositions offraient peu d'intérêt, furent entendues, et bientôt la série des témoins à charge fut épuisée. On commença à entendre les témoins à décharge. Le premier fut M. Badger, l'ancien préfet, qui déclara que le 11 octobre, à minuit, M. Maxindy était chez lui, à Paris, et avait assisté à un bal qu'il avait donné ce soir-là. Cette importante déposition fut confirmée par 12 témoins, personnages marquants qui avaient assisté à ce bal et qui reconnurent parfaitement bien M. de Durental. 3 domestiques et le concierge de l'évêché, tous au service de M. l'évêque d'A, déclarèrent que, sur les 9 heures ou 9h30 du soir, un inconnu, mais qui certainement n'était pas Argot, s'introduisit à l'évêché, en se faisant conduire avec un gros paquet que l'on crut être celui de M. le contre-amiral, dans la chambre même de M. le marquis de Saint-André.
« Qui de vous l'a introduit ? » demanda M. de Ruisan.
« C'est moi,
répondit le valet de chambre de M. de Saint-André.
« Est-il ressorti ?» demanda le président.
« Je l'ai reconduit jusqu'à la porte des appartements. »«
Concierge ?» demanda le président. « Avez-vous vu sortir cet homme par la porte de l'évêché ?»«
Oui, monsieur. »
« L'avez-vous vu rentrer ?» demanda Charles.
« Je ne saurais répondre d'une manière certaine. »
« La porte de l'évêché reste-t-elle ouverte ?»«
Presque toujours. »«
Était-elle fermée alors ?» demanda le président.
« Je crois pouvoir dire oui, si ma mauvaise mémoire me le permet. »«
Dites oui ou non, » répliqua Charles.
« Je ne saurais, » dit le témoin.
« À quelle heure ?»
« Il était 9h30. »«
A-t-on défait le paquet ?» demanda le président aux trois domestiques successivement.
« Oui, monsieur, » répondit le valet de chambre. « Il contenait des effets, des papiers, des brimborions tellement sales et mauvais qu'on les brûla, car on vit bien que c'était par dérision qu'on avait apporté ce paquet.
« Faites le portrait de celui qui l'apporta. »
« Il était petit, gros, et avait l'air étranger. J'affirme cette partie de ma déposition. »
Comment était-il habillé ?
Grossièrement. Il portait même des souliers ferrés.
Ici, Charles, faisant observer que la liste des témoins à décharge était épuisée, soumit à la cour une demande.
Messieurs, dit-il, nous avons un témoin à produire, mais notre devoir n'est pas de poursuivre des coupables. Et je n'ai d'autre but que le salut de mon client. Je demande donc si la cour trouvera bon que nous fassions intervenir une personne obligée de garder l'anonyme, mais dont la seule présence fera arriver à la découverte de la vérité. Nous demandons qu'il lui soit permis de se retirer sans qu'elle soit poursuivie, du moins à l'instant même. Sans cela, nous renoncerions à l'introduire.
Monsieur de Ruisan s'opposa fortement à une chose aussi insolite et dit que l'on ne traitait pas ainsi avec la justice. Mais le chef du jury, ayant déclaré que la conscience des jurés exigeait que la personne fût admise, la cour, après en avoir délibéré, permit à l'avocat d'introduire le témoin. À ce moment, un homme d'une taille énorme fendit la foule, arriva devant le président et, posant sur le bureau une épingle absolument semblable à celle saisie sur Argot, il s'échappa sans qu'il fût possible de le retenir. Cette singulière scène se passa avec la rapidité de l'éclair, et Charles ajouta « Monsieur le Président, et vous, messieurs les jurés, vous jugerez jusqu'à quel point nous sommes embarrassés lorsque nous vous dirons, sous la foi du serment, qu'hier, une lettre anonyme que voici, et Charles la déposa sur le bureau, nous offrit, sous la condition que j'ai eu l'honneur de vous exposer, de faire arriver sous les yeux du tribunal la principale pièce de conviction. J'ai répondu, comme la lettre me l'indique, de vive voix en entrant à l'audience, que je ne demandais pas mieux, et j'avoue, dans la sincérité de mon âme, que j'ignorais le résultat. La séance fut levée et toutes les circonstances de ce procès extraordinaire, ainsi que la dernière, qui certes était bien singulière, aiguillonnèrent la curiosité publique au dernier point. Les juges, les jurés, les avocats, M. de Ruisan, l'assemblée entière, nul enfin n'avait seulement pu entrevoir l'être extraordinaire qui semblait être sorti de dessous la terre et s'être envolé. Car la foule, étonnée, avait à peine gardé le souvenir de l'empressement avec lequel elle s'était partagée en haie pour le laisser passer, d'après un geste plein de puissance et d'autorité. Le lendemain fut attendu avec d'autant plus d'impatience qu'il était vraisemblable que les plaidoiries auraient lieu, et que dans la nuit, le jury prononcerait son arrêt. Une multitude de paysans, venus des campagnes de Durantal, était arrivé pour savoir le sort du bienfaiteur de ces contrées. Annette ignorait tout et vivait dans un oratoire, en priant le ciel pendant le temps qu'elle ne pouvait pas voir son époux de gloire. Chapitre 25. Le lendemain,
la place sur laquelle est situé le palais de justice, était couverte de monde et dès son ouverture, la salle des assises fut envahie. L'accusé excita par son arrivée un murmure de faveur et d'intérêt qui prouvait bien que les assistants ne l'avaient connu qu'à Valence ou à Durantal. Il était toujours le même, calme et d'une douceur aussi grande que sa cruelle énergie fut jadis furieuse. Sa figure brillait et ses yeux annonçaient une grande suavité religieuse dans tous ses sentiments. Le bonheur même répandait sur tous ses traits son auréole gracieuse. Car à l'instant où il paraissait, il sortait de sa prison. Et Annette, alors, l'avait comblé de mille preuves d'amour, l'avait enivré de tous les dons d'un cœur pur, mais exalté par les circonstances. En ouvrant la séance, le président fit passer au juré la seconde épingle qui avait été remise la veille d'une manière si extraordinaire sous les yeux de la justice. Et elle fut trouvée exactement pareille à celle que portait Argot. Le fragment s'y rapportait également, de manière que, pour le moment, l'on n'apercevait aucun indice qui pût faire penser que l'une avait, préférablement à l'autre, donné la mort à Monsieur de Saint-André. Après avoir demandé à Charles s'il n'avait plus aucun témoin à faire entendre en faveur de l'accusé, le président donna la parole à Monsieur de Ruizan pour soutenir l'accusation. Mais ce dernier, par un adroit artifice, déclara qu'il s'en tiendrait à une réplique à l'avocat de l'accusé, parce que l'accusation n'était que trop prouvée par les faits, que, pour lors, il se contenta de paraphraser en concluant à la condamnation d'Argot. Un sourire de dédain parut sur les lèvres de Charles. Il se leva, et à ce moment, le plus profond silence s'établit dans l'assemblée. Tous les yeux se tournèrent sur l'avocat, qui semblait être le centre de toutes les pensées de cet immense auditoire. Le bruit d'une araignée attachant son mince réseau aurait pu facilement être entendu. Charles n'avait ni notes ni livres. Il était simplement debout au barreau, ce qui excita l'étonnement des avocats de Valence. Jetant alors un coup d'œil plein de finesse sur les jurés, il dit, d'une voix qu'il savait rendre à son gré, flatteuse et pleine de charme. « Je n'en appellerai pas, comme on le fait, à votre sagesse. La flatterie est inutile en de pareilles occasions, et l'on sait fort bien que des hommes impartiaux ne condamnent pas de gaieté de cœur un homme à mort. Aussi, par le même motif, je ne chercherai pas, pour vous convaincre, de ces arguments que l'on tire de certains raisonnements métaphysiques sur lesquels on se rejette toujours. C'est dans les faits, et dans les faits tels que les débats les ont présentés, que j'irai chercher notre défense. Et en les expliquant avec bonne foi à des consciences pures, vous trouverez des preuves contre l'accusation. Nous ne sommes plus autant des quarts de preuves et des scrupules de probabilité pesés par des juges. La société vous députe pour juger en son nom, et il vous faut, avant de donner la mort, une clarté et une lucidité qui n'existent plus maintenant que l'accusation est arrivée en présence des faits, dont elle avait donné le détail avec tant d'art. Ainsi, vous n'oublierez pas que c'est de notre côté que se trouvera la lucidité, et que c'est nous, accusés, qui venons éclairer la justice, comme s'il ne s'agissait pas de notre vie. Des témoins vous ont assuré avoir vu Jacques de Durantal à une réunion composée de l'élite de la société de Paris. Ces témoins n'ont plus revu depuis l'accusé. Ils n'avaient que la vérité à dire et ces témoins l'ont vu à Paris, à minuit, le 11 octobre. Ici, Charles fit parvenir au juré le billet d'invitation de M. Badger à M. Maxandy pour cette soirée. « Messieurs, reprit-il, ce nom de Maxandy est celui d'un chef de sauvage qui sauva la vie à mon client, car l'innocence doit tout expliquer, et ces noms que l'on vous a dit être supposés pour échapper aux poursuites sont l'effet de la reconnaissance, car celui d'Argot, que Jacques a porté jusqu'à ce qu'il eût pris celui de Maxandy, fut le surnom que lui donna l'équipage du premier vaisseau sur lequel il est navigué. Maintenant, messieurs, je pourrais vous donner à peser dans l'asile de vos consciences comment il a pu se faire que le 13 au matin, Jacques de Durental fût à A, après être passé par Vence-la-Pavée et s'y être arrêté. Mais le moyen de l'alibi est explétif. Ce sera le dernier refuge de l'innocence. Nous avons 1000 preuves à donner avant celle-ci. Vous connaissez la position de l'accusé et la mienne. C'est moi, son parent, qu'il est en quelque sorte amené sur ses bancs. Une femme, pour avoir empêché sa fuite, s'est punie devant vous. Je défends mon parent, parce que s'il a beaucoup fait pour le crime, il a fait encore plus pour la vertu. Aussi, le sauver est mon plus cher espoir, et plus encore, c'est désormais un devoir pour moi. Fût-il coupable ? Débutant par un tel aveu, il faut que je sois bien certain de son innocence et de la force de nos raisons. Mais vous remarquerez que cette loyale franchise régnera dans mon discours, et c'est par l'effet de cette sincérité que notre justification viendra, non pas des témoins à décharge, mais des dépositions même des témoins que le ministère public a fait comparaître pour prouver l'accusation. Je ne répondrai pas à l'accusation quand elle prétend que Jacques avait intérêt à faire périr M. de Saint-André. En temps et lieu, l'on verra le contraire. Je prends donc les débats à l'instant auquel ils ont commencé. Jacques, disent les témoins, a été à 8h30 à l'évêché. Il en est revenu à 9h, et depuis, personne n'a pu vous affirmer qu'il soit ressorti de son auberge. Première obscurité. On vous a ensuite établi qu'il était parti à 1h du matin. Voici donc une circonstance bien forte. Pesez-la. Nul témoin à charge ne peut affirmer l'avoir vu sortir de l'auberge une fois qu'il y fut rentré en revenant de l'évêché à 9h. De 9h à 1h qu'il est parti, il y a 4h. Et c'est pendant ces 4h que le crime a été commis, dit l'accusation. Quel est le devoir du ministère public ? C'est de vous faire suivre un accusé dans toutes ses actions. Il doit vous le montrer en quelque sorte marchant au crime et le commettant. Or, ici, l'accusation n'a pour preuve, au milieu de ces ténèbres, que la déposition de Monseigneur l'évêque. Et ce dernier peut facilement être repoussé dans son témoignage, car ce vieillard, prévenu par les antécédents de la vie d'Argot, a pu croire que l'assassinat de son frère était le fruit de la haine du chef contre le matelot. Nous, messieurs, nous serons toute lumière en nous justifiant. À son premier pas, l'accusation est comme interdite, car elle ne peut pas prouver que nous soyons sortis de notre auberge. Maintenant, remarquez que la marchande de fer a déclaré avoir vendu 7 crampons de fer dans la soirée, mais elle n'a pas précisé l'heure. Si l'accusé a commis le crime et qu'il prouve être revenu de l'évêché à 9h, il faut, pour que l'accusation soit prouvée, qu'elle le montre sortant de son auberge à 9h30 au moins pour acheter les crampons. Observez, messieurs, que nous marchons dans le sens de l'accusation. Sorti de l'auberge, achetant des crampons, où serait-il allé? Il constate qu'il est parti avant 1h. Serait-ce en 2h30 de temps qu'il aurait envahi l'évêché, tué M. de Saint-André, qu'il serait revenu à l'auberge et qu'il y aurait repris tranquillement son sommeil dans son lit sans être aperçu de nul être au monde, à travers tant d'obstacles? L'hôtel d'Espagne était encombré de voyageurs. La porte était restée ouverte, ce qui suppose une grande surveillance, et aucun témoin ne peut vous dire « Je l'ai vu sortir, aller, venir dans les rues ». La marchande de fer a une famille, son quartier est populeux. Que de vide dans l'accusation. Bien plus, le réverbère de la rue était allumé, et voici une preuve qu'il aurait fallu surmonter l'impossible pour consommer ce crime. C'est que, le 11 octobre, les réverbères ne s'allument qu'à 10h30 à cause de la lune. En voici l'attestation du maire d'A et de l'entrepreneur de l'éclairage. Ainsi, l'accusé, selon ses renseignements certains, aurait eu encore moins de temps.
Or, dans cette soirée fatale, pendant que personne n'a vu ressortir l'accusé auquel il était bien permis de dormir, après un voyage aussi prompt que celui qu'il a dû faire, on a vu, des témoins ont même conduit un inconnu qui n'est pas l'accusé. Cet inconnu a déposé un paquet dont le contenu a prouvé qu'il s'était introduit dans l'hôtel avec l'intention d'y mal faire. On ne peut pas affirmer qu'il soit sorti. Monsieur de Saint-André est assassiné et c'est nous que l'on accuse. Il y a preuve contre l'inconnu et à peine soupçon sur nous. Et nous sommes sur les bancs du crime. Ici, je prie Monsieur le Président de faire rappeler deux témoins, le valet de chambre de Monsieur le Marquis et la servante de l'auberge d'Espagne, car je vais avoir deux renseignements qui prouveront ou notre culpabilité ou notre innocence. Les deux témoins rappelés, Charles écrivit au président deux demandes à faire. Le président demanda au valet de chambre à quelle heure Monsieur le Marquis de Saint-André s'était couché.
« À 10 heures,
reprit-il. « Comment pouvez-vous donner une date aussi certaine ? » demanda le procureur du roi.
« Parce que ce fut après avoir soupé, et lorsque j'eus desservi à 9h30, que monsieur causa avec son frère, une demi-heure environ, et comme j'attendis tout ce temps, et que ce fut alors que j'allais déshabiller monsieur de Saint-André, ces petits événements ont gravé l'heure dans ma tête. »
« Les draps de l'accusé annonçaient-ils qu'il se fût couché dans son lit, à votre hôtel ?» demanda le président à la servante.
« Oui, monsieur. »«
Messieurs, reprit Charles, l'accusé, en se couchant à 9h30, n'aurait eu que 2h30 de repos pour se remettre de la fatigue de son voyage. Et l'on n'oubliera pas que s'il partit à 1h, ce fut pour aller chercher la fille de monsieur Saint-André. » qu'il s'était engagé à ramener le lendemain.
Pourquoi ne la ramena-t-il pas le lendemain ?
Il connaissait donc la mort de monsieur de Saint-André, qui cependant ne fut connu qu'à 10 heures du matin, demanda monsieur de Ruisan.
Monsieur le procureur du roi, je n'imagine pas qu'un plaidoyer soit une controverse, et vous m'interrompez au moment où j'allais au-devant de l'objection.
Vous saurez donc que mademoiselle de Saint-André ne voulut pas venir et qu'elle s'évada. C'est chose prouvée. Et l'accusation établit elle-même que l'accusé fut alors incarcéré, non pas par la justice, mais par l'amant de mademoiselle de Saint-André qui craignait son courroux. Et s'il s'évada de la prison d'Aunay, ce fut pour aller se venger de cet enlèvement.
Pouvions-nous retourner à A ?
Je le demande. Maintenant, supposons que le véritable criminel soit cet inconnu. Admiré comme de la part de l'accusé, toutes ses démarches sont naturelles, sont vraies. Il arrive à A, ayant fait un voyage d'autant plus fatigant qu'il a été rapide, si tant est que ce soit lui. Et après avoir rencontré un homme qu'il ne s'attendait pas à trouver, qui peut le livrer aux tribunaux comme pirate, il fait un traité. Permis à un père seul de le faire, par lequel M. de Saint-André s'engage à ne pas le livrer aux tribunaux s'il lui rend sa fille. Remarquez que Jacques pouvait s'enfuir en Allemagne, qu'il avait 1000 partis à prendre plutôt que de tuer M. de Saint-André. Or, il sort, va se coucher, repose, et à minuit, fidèle à ses engagements, il vole chercher la fille de son amiral. J'ai dit le reste tout à l'heure. Est-ce clair ? N'est-ce pas la vérité ? Messieurs, ce qui n'est qu'une probabilité va devenir une réalité. En effet, parmi les pas qu'on a mesurés dans la chambre de M. de Saint-André et ceux qui furent également mesurés dans le jardin, l'accusation a omis de dire qu'il s'en trouve d'étrangers, qu'on en a remarqué d'autres, et ces pas bien distincts. Pourquoi ne seraient-ils pas ceux du véritable coupable ? Il s'y trouve des pas exactement les nôtres. Messieurs, si l'accusation n'a plus que cette preuve, condamnerez-vous un homme parce que la marque de ses pieds forme une marque exactement pareille à celle d'un autre homme ? Mais une chose que l'on n'a pas remarquée et qui jette encore plus d'obscurité sur l'accusation, c'est que l'on ne vous a pas dit dans quel sens allaient ses pas. S'il venait de la cheminée au lit, du lit à la cheminée ou de la porte de la chambre au lit. Si, dans le jardin, il venait de l'autel au mur de clôture ou du mur de clôture du jardin à l'autel. Ici, je demanderai à l'accusation. Par où pense-t-on que nous nous soyons introduits? Déterminer le terrain sur lequel nous devons nous défendre. Voyons, est-ce par la porte? Le concierge nous aurait revus, reconnus. Par le jardin? Il faut le prouver. Et sur 30 maisons qui font face au jardin, nul habitant ne nous a vus. Ensuite, que de difficultés dans l'exécution, tandis que nous n'avions que tout au plus 2 heures. Et comment, messieurs, l'auteur de ces pas et du crime ne serait point cet inconnu qu'une marchande de fer a pu désigner faussement pour l'accuser à cause de l'éloignement du réverbère que l'attestation du maire vous dit être à 13 pas de la boutique, sur la gauche. Cet homme, une fois introduit et que l'on n'a pas vu sortir, n'a-t-il pas pu se cacher dans l'hôtel après y être entré? Et n'a-t-il pas calculé d'avance qu'il sortirait par la cheminée et le jardin au moyen de sa corde et de ses crampons? Le fait est que M. de Durental n'a pas paru à l'évêché et que l'accusation est muette sur l'heure du crime. Nous, portant un flambeau de vérité sur cette partie, nous prouvons que cet assassinat a dû être commis au moins à minuit, car les crampons n'ont été achetés qu'à 10h30. Et d'après les difficultés, il fallait au moins 1h30 pour arriver à la victime. Or, nous sommes partis à 1h, et nous avions dormi longtemps. Mais, messieurs, supposez le crime commis dans l'intervalle de 10h30 du soir à 6h du matin. Rien ne l'empêche. Ici, l'accusation contre nous croule tout entière. Car enfin, n'y avait-il que nous qui eussions intérêt à tuer M. de Saint-André? Savez-vous ce qui existait entre lui et l'inconnu? Or, maintenant, quelle preuve avez-vous pour croire que c'est Jacques qui est monté par-dessus le mur, qui a franchi les étages de l'hôtel jusqu'au sommet, et comment? Le dernier crampon se trouve au second étage. Comment aurait-il monté jusqu'au second avec ses mains? N'est-ce pas impossible? N'est-il pas plus naturel de penser que celui qui s'était introduit dans la chambre, sortant par la cheminée, a fiché ses crampons et y a attaché ses cordes, et qu'arrivé au second, il s'est laissé couler jusqu'en bas au moyen de sa corde? Que d'obscurité! Que de ténèbres dans l'accusation! Quelle clarté dans nos actions! L'acte d'accusation est clair, dit-on. Demain, contre un inconnu, avec des circonstances moins aggravantes, j'en ferai un aussi lucide. Jugez donc. Non, nous sommes innocents. Que l'accusation retrouve l'inconnu. Voilà le coupable. Ici, un murmure d'approbation, même de la part de quelques jurés, accueillit ce plaidoyer, sous les raisonnements duquel M. de Ruizan semblait accablé. Il examinait pendant ce temps l'épingle d'argot et celle remise la veille par l'inconnu. « Maintenant, continua Charles, cet inconnu d'hier qui a demandé ce sauf-conduit, ne serait-il pas ce coupable qui, pressé par ses remords, est venu donner ainsi une preuve en faveur de l'innocent ?» Ici, argot dit à voix basse, « Grand Dieu, quelle puissance vous avez donnée à la parole de l'homme !» Et il jeta un profond soupir. « Que reste-t-il ? » continua Charles avec une énergie et une véhémence croissante. « Que reste-t-il à l'accusation ? Une épingle ? Non, je me trompe, 2. S'il était permis de plaisanter dans un sujet aussi grave, je voudrais vous faire rire, messieurs, sur une accusation qui, prouvée, entraînerait la mort et qui s'appuie sur 2 épingles cassées comme sur des béquilles. » Ainsi donc, tant que l'on ne prouvera pas que l'épingle de Jacques est celle qui a donné la mort, tant que l'on ne prouvera pas que l'autre est une épingle non mortelle, vos épingles ne pourront pas nous atteindre. Nous ne dissimulons pas que l'accusation aurait été plus grave sur le chef des pirateries. Mais si nous avons été condamnés en Amérique, nous ne le serions jamais en Europe. Car devant des juges européens, le corps du délit manquerait.
Ici, Charles se livra avec une éloquence entraînante à la description des nombreux bienfaits par lesquels Jacques avait cherché à se faire pardonner ses erreurs. Il s'éleva à tout ce que l'art oratoire a de plus passionné et de plus persuasif, et il récapitula si bien tout ce que son plaidoyer avait de logique et de bonne raison, que lorsqu'il fut terminé, une salve d'applaudissements se fit entendre, et sur la place on cria unanimement « Il est sauvé !» Monsieur de Durental avait écouté Charles comme s'il eût parlé pour un autre. Et lorsque Monsieur de Ruisan se leva, il se retourna vers ce dernier avec une complète indifférence. « Messieurs, répliqua Monsieur de Ruisan, j'avoue que jamais accusation n'a été détruite avec autant de succès. » À ces paroles, un murmure de joie s'éleva dans l'assemblée. Je conviens que pour la soutenir sur le chef de l'assassinat de Monsieur le Marquis de Saint-André, il faut de nouvelles preuves. Mais j'en ai une palpable. L'épingle de Monsieur de Durental et celle qui nous a été remise hier, non pas comme le prétend l'avocat par le vrai coupable, le fut par un ami de l'accusé. Et ceci tient à un raisonnement très juste et si naturel que c'est le premier qui soit tombé sous le sens de l'avocat dans la défense. Mais voici ce que je remarque, c'est que l'épingle ou l'arête de poisson qui nous a été donnée hier est teinte de la même substance que celle qui couvre l'arête de Monsieur Jacques. Mais l'arête de Jacques, à l'endroit où elle est fracturée, n'est plus teinte à l'endroit de la fracture, puisque le poison dans lequel elle a été trempée n'a enduit que la surface. Et celle qui nous a été adressée est recouverte de substances vénéneuses à l'endroit même où celle de Jacques n'en a point. Ici, les jurés demandèrent unanimement à voir cette différence. Pendant qu'ils examinaient cette différence, Monsieur de Huizan requit le président de mander deux chimistes et deux naturalistes et de soumettre les épingles à leur analyse. L'audience fut donc suspendue. Pendant cette suspension, Monsieur de Ruisan reçut deux lettres, et ces deux lettres excitèrent en lui une vive émotion. L'audience fut reprise à sa requête, et il déclara qu'une lettre anonyme venait de le menacer de la mort s'il persistait à vouloir faire condamner Argot. Il déposa la lettre au procès, et déclara que rien ne pourrait l'empêcher de faire son devoir. « Ces lettres, dit Charles, peuvent plutôt nuire que servir à l'accusé, car à la place de monsieur le procureur du roi, j'agirai de même. »« L'autre lettre, s'écria monsieur de Ruisan, est la plus importante, car monsieur le procureur général m'annonce que demain, l'inconnu dont la défense est tant occupée, celui qui a pénétré dans l'hôtel de monsieur l'évêque d'A, a été retrouvé. En effet, messieurs, la présence de cet inconnu a été, pour le ministère public, l'objet de longues recherches, dès l'origine des poursuites, comme pendant le cours de l'instruction. Et nous ignorons alors entièrement la nature des dépositions que fera ce nouveau témoin. Elles peuvent être favorables ou défavorables. Mais cette circonstance nous force à demander que la cour s'ajourne à demain, le témoin n'arrivant que ce jour. » On obtempéra à cette demande et l'issue du procès fut encore reculée d'un jour. Le lendemain, même foule et même impatience. Les deux chimistes furent d'accord que la substance qui recouvrait l'épingle d'Argot leur était inconnue, mais que celle qui enduisait l'épingle à portée était une substance tellement facile à créer qu'ils offrirent d'en produire, en taisant toutefois le nom de cet acide vénéneux pour en dérober la connaissance au public. Les deux naturalistes reconnurent également que l'arête qui produisait l'épingle d'Argot provenait d'un poisson qui leur était inconnu, mais que l'autre provenait du saumon et qu'on l'avait même taillé et arrangé. Enfin parut le témoin si important dans le procès, l'inconnu sur lequel Charles avait rejeté avec tant de talent tout le crime. Il fut contemplé avec une vive curiosité par toute l'assemblée,
et l'on vit un Auvergnat, petit, gros, et tel que l'avaient dépeint le concierge et le valet de chambre. On confronta l'Auvergnat avec eux. Ils déclarèrent que c'était bien lui qui s'était introduit dans l'hôtel de l'évêché. L'Auvergnat déclara se nommer Jean Gratinat, être d'Auvergne et demeuré à Y, dans les montagnes du Cantal. « Avez-vous été à A ?» demanda le président.
« Oh, bien !» répondit-il.
« Combien de temps ?»«
6 mois. »«
Qu'étiez-vous venu faire ?»«
Gagner ma vie. » »«
Pourquoi vous êtes-vous en allé si tôt ?»«
Parce que j'avais fait fortune. » »«
Comment cela ?»« Un gros monsieur m'a donné 12 000 francs et m'a fait reconduire dans une belle voiture à mon pays pour avoir porté un paquet à l'évêché. »
Rien que cela.
Et lui dire où était située une chambre. Une profonde terreur régna dans l'assemblée. Charles parut abattu. Reconnaîtriez-vous l'homme qui vous a donné les 12 000 francs?
Oui.
Est-ce l'accusé?
Non.
Cette réponse fut accueillie par un murmure d'étonnement.
Connaissez-vous l'accusé?
Oh ben!
Comment le connaissez-vous?
C'est lui qui m'a promis les 12 000 francs. C'est lui qui m'a fait épouser Jeannette. C'est mon bienfaiteur. C'est à lui que j'ai donné les renseignements. Et c'est lui qui m'a donné le paquet à porter à l'évêché.
Accusé Jacques, demanda le président, reconnaissez-vous cet homme pour l'avoir rencontré à A?
Oui.
Alors monsieur de Ruizan prit la parole et soutint l'accusation avec une facilité et une éloquence dignes de son prédécesseur. Charles répliqua, mais le plaidoyer qu'il fit ne roula plus que sur des raisonnements spécieux, pleins de logique, mais de cette logique qui ne résulte plus des faits, qui ne s'appuie plus que sur les raisonnements métaphysiques. Le président résuma les débats avec talent et posa la question qui n'était nullement embrouillée. Les jurés entrèrent dans la chambre des délibérations et y restèrent 4 heures et demie. Au moment où ils rentrèrent dans la salle, il y eut un mouvement de terreur et d'attention dans l'assemblée. Et le chef du jury déclara, dans la forme imposante prescrite par nos lois, le « oui » de conviction qui s'échappait de l'unanimité des consciences. Argot fut condamné à subir la peine de mort. À ce moment, Argot se leva et s'adressant aux jurés, « Messieurs, leur dit-il, si par hasard il vous restait quelques doutes et que l'un de vous fût tourmenté par sa conscience, je déclare que je suis coupable. Ayant satisfait à la terre, j'espère que les cieux me pardonneront. » Le criminel inspira par ses paroles une pitié qui se glissa dans tous les cœurs et sur la place, lorsque la condamnation fut apprise par la multitude, il y eut un grand cri qui prouvait l'intérêt qu'il avait inspiré. La salle était vide, Jacques dans la prison, et Charles, désolé, la mort dans l'âme, fut chercher Annette et l'emmener chez lui pour la préparer à cette fatale nouvelle qui fit l'objet des conversations de toute la ville de Valence.